sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans cette actualité européenne dominée depuis plusieurs jours par ces naufrages à répétition en Méditerranée. Et rien ne semble décourager les migrants. L'Italie s'attend à un flux continu de 5000 arrivées par semaine. Des drames humains qui ont cette fois provoqué un sursaut des dirigeants européens réunis aujourd'hui en sommet extraordinaire à Bruxelles. L'appel de l'Italien Matteo Renzi a été entendu en partie. Alors sur la table, 10 propositions qui ne seront pas forcément faciles à mettre en œuvre, comme la question de l'accueil des migrants en Europe. Pour l'ancien Premier ministre belge, les propositions des 28 ne vont pas assez loin. Il plaide, lui, pour un renforcement des moyens de l'agence Frontex et pour une répartition des réfugiés entre les différents États membres. Guy Verhofstadt.
La première chose à faire, c'est faire de Frontex une vraie agence européenne avec les moyens nécessaires. Aujourd'hui, Frontex a un hélicoptère, 2 avions et 7 navires. Voilà. C'est peut-être bien pour la côte belge, mais c'est pas assez certainement pour protéger, pour sauver tous les naufragés dans la Méditerranée. Donc c'est un scandale simplement de dire « Ah, les problèmes seront résolus avec un doublement du budget de Frontex ». Le problème est que les coopérations qui existent sont des coopérations volontaires, ce qui fait qu'il n'y a que 4 ou 5 pays qui participent ou qui financent Frontex par exemple.
Qu'est-ce qu'on fait pour tous les réfugiés qui arrivent en Europe ?
Il faut un système collectif dans lequel on va tenir compte du nombre des habitants des pays, du produit intérieur brut des différents pays. Les 2 seuls pays qui ont fait des efforts pour les réfugiés syriens en particulier, c'est l'Allemagne et la Suède. Et moi, je plaide qu'au moins tous les autres pays font le même effort que les Allemands ou les Suédois. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la conséquence d'une non-action de l'Union européenne il y a 3 ou 4 ans.
L'eurodéputé Guy Verhofstadt, chef des démocrates libéraux, micro de Johanna Hochstein. Sur le terrain, les associations, les ONG notamment, ne sont pas en reste. Nombreux sont ceux qui dénoncent déjà le manque d'ambition de ce plan d'urgence européen. Cécile Debarge nous appelle de Palerme, en Sicile.
En Italie, rares sont ceux à approuver pleinement le plan d'urgence de la Commission européenne. D'un côté, ceux qui demandent plus de fermeté avec un blocus naval pour empêcher les bateaux de partir de Libye. Une position défendue par Angelino Alfano, le ministre de l'Intérieur, et le parti de droite Forza Italia. Les associations, elles, et dénonce le manque de moyens mis sur la table, comme Bijoun Ziriran. Cette Congolaise installée depuis 15 ans en Italie milite depuis plusieurs années dans une association d'aide aux migrants.
Tous ces points d'urgence n'abordent pas la question sous le bon angle. Aujourd'hui encore, on prend pour excuse les difficultés économiques. Ils disent Mare Nostrum, on ne peut plus le faire parce que ça coûte trop cher. Et pourtant, tout le monde sait que l'opération Triton causera encore d'autres morts.
Mardi, de nombreuses associations se sont donc rassemblées devant les préfectures d'Italie pour défendre ce qui, selon elles, devrait être le premier point du plan d'urgence, c'est-à-dire la sécurité des migrants mise en danger à chaque instant lors de la traversée.
Et aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital, j'ai rencontré 8 femmes et une petite fille de 2 ans, toutes brûlées pendant la traversée. Les gens de la Commission européenne, à quoi pensent-ils quand ils voient ça ? C'est avant tout le courage de ces gens dont il faudrait se rappeler.
Concrètement, leur demande est claire.
Nous voulons un couloir humanitaire pour que les gens voyagent en sécurité et surtout pour arrêter cet esclavage. Les migrants sont devenus des marchandises. L'Europe doit donc dire clairement à ces bandits qu'ils ne peuvent pas continuer ce trafic humain.
C'est le seul point qui met tout le monde d'accord. La nécessité absolue de tout faire pour arrêter les esclavagistes du 21e siècle, selon les mots du président du Conseil italien Matteo Renzi. Et pour cela, l'Union européenne apparaît bien faible. Sergio Mattarella, le président de la République, demande l'intervention de l'ONU et des grandes organisations internationales.
C'est l'autre événement depuis le début de la semaine, le centenaire du génocide arménien. Des commémorations qui crispent profondément l'État turc, qui se refuse totalement au terme de génocide. Il n'empêche, en 1915, plus d'1 million d'Arméniens ont été déportés, exécutés sur l'ordre du gouvernement des jeunes turcs. Un siècle plus tard, en Anatolie orientale, sur les principaux sites des massacres, la mémoire kurde notamment reste présente. Anne Andlauer s'est rendue à Diyarbakır à la rencontre de quelques gardiens locaux de cette mémoire douloureuse qui ne demande qu'à s'exprimer.
La cloche de l'église arménienne Sourbe-Giragos de Diyarbakır renaît de 100 ans de silence. Quelques mois avant le génocide de 1915, un boulet de canon avait pulvérisé le clocher, prélude au massacre d'Arméniens et à la ruine de l'édifice. Mais sur ces terres orientales de l'ancien Empire ottoman, où les peuples et croyances coexistent depuis des siècles, le souvenir de 1915 n'a jamais cessé de résonner, hantant les lieux et les esprits. L'anthropologue Anan Çelik a grandi à Diyarbakır. Il vient de publier un recueil de témoignages sur la mémoire du génocide chez les Kurdes de la région.
J'ai grandi avec les histoires du génocide. Aujourd'hui encore, il suffit de s'asseoir dans un café, d'aborder le sujet dans n'importe quelle maison de n'importe quel village pour que les gens vous livrent la mémoire de 1915. C'est comme un deuil infini, un fantôme qui tourmente sans fin les esprits. Je n'ai presque jamais été confronté au déni du génocide sur ces territoires. Au contraire, quatre générations ont passé et les gens racontent encore des anecdotes dans les moindres détails, comme si cela s'était produit hier.
Adnan est le petit-fils de ce qu'on appelle en kurde un bafelé, c'est-à-dire un Arménien, femme et enfant le plus souvent, qui ont réchappé au génocide en se convertissant à l'islam. Dans l'Anatolie de 1915, entre 100 et 200 000 Arméniens auraient survécu de cette façon. Mais comment expliquer que la mémoire des victimes soit si vive, si vivante aujourd'hui encore chez les Kurdes de ces régions?
Il y a d'abord la mémoire des lieux. La première chose que font les Kurdes quand ils parlent de 1915, c'est de désigner tel ou tel site où des Arméniens ont été massacrés. Il y a ensuite la pratique de la langue kurde qui a préservé la mémoire du déni officiel. De plus, la violence déployée fut telle qu'elle s'est gravée dans la mémoire collective comme un grand traumatisme. Il y a également la présence des Arméniens islamisés, une conséquence concrète, visible, du génocide. Et puis il faut enfin citer le mouvement politique kurde qui, depuis ses débuts, remet en cause l'histoire officielle, parle du génocide et du rôle des Kurdes dans ce génocide.
Juste avant le génocide, on estime à près de 60 000 le nombre d'Arméniens à Diyarbakır, 30% de sa population. Lorsque commencent les massacres et les déportations au printemps 1915, le gouverneur ottoman de l'époque, le docteur Mehmet Reşid, fait montre d'un zèle enthousiaste à décimer les Arméniens. Mais ce docteur Reşid a aussi pu compter sur l'aide de nombreux notables locaux et chefs de tribus kurdes. Ces hommes auxquels on promettait et qui ont souvent obtenu tel champ ou telle maison après l'exécution du propriétaire arménien. Ces fidèles musulmans auxquels on garantissait le paradis pour le meurtre de 7 chrétiens. Abdullah Demirbaş, une figure locale du mouvement politique kurde, a le visage contrit lorsqu'il évoque cet épisode.
Mon grand-père me racontait cette histoire d'un prêtre qui, pour convaincre un kurde de ne pas le tuer, lui aurait dit « Nous sommes le petit-déjeuner, vous serez le déjeuner ». L'histoire lui a donné raison. En 1915, l'État a utilisé les Kurdes et d'autres peuples contre les Arméniens. 10 ans plus tard, en 1924, les mêmes Kurdes ont subi des massacres. Il faut que nous, petits-enfants de ceux qui ont aidé au génocide, nous nous excusions et nous affrontions ce passé pour bâtir un avenir ensemble.
Bâtir un avenir. Chez l'ancien maire de Sour, quartier historique de Diyarbakır où vivaient autrefois de nombreux Arméniens, l'expression est plus qu'un slogan. En 2009, Abdullah Demirbaş a joué un rôle clé dans la restauration de l'église arménienne Sourbe-Giragos, avec l'appui de la municipalité de Diyarbakır et d'une fondation.
Nous avons une dette envers ce peuple. Quand je viens à l'église, je ressens la joie de celui qui a payé sa dette ou une partie de sa dette. Et je continuerai de la payer. Les droits ne se donnent pas, ils se prennent. Si vous attendez que l'État change, il ne changera pas. Vous devez d'abord vous changer vous-même avant de faire changer l'État.
Adnan Çelik, le jeune anthropologue, se montre plus sceptique.
De nombreux Kurdes reconnaissent le génocide, ils s'excusent. Et ensuite, seront-ils les seuls à en parler? Sont-ils les seuls coupables? La question, c'est de savoir ce que va faire l'État qui nie depuis 100 ans. C'est désormais à l'État d'agir.
Dans la cour de Sourbe-Giragos, Aram Madikian, le gardien, finit de sonner la cloche. Pour cet homme dont le grand-père était un Arménien islamisé, la restauration de cette église, la plus grande église arménienne de tout le Moyen-Orient, est une source de joie et d'espoir.
Cette église devient un lieu de rencontre pour tous les Arméniens du monde, ceux qui ont survécu, les Arméniens de la diaspora. La seule image qu'ils ont de la Turquie, c'est celle d'une terre où des atrocités ont été commises. Mais je pense que certains ont moins peur de revenir sur les lieux du génocide depuis qu'ils savent que l'église existe à nouveau. Quant à moi, chaque matin, je me dis que peut-être quelqu'un va pousser la porte de l'église et me dire Je suis un membre de ta famille. Je suis revenu. Je t'ai retrouvé. Je ne demande que ça. Il me suffirait d'entendre ces mots pour mourir tranquille.
C'est 22,
23 et 24 avril, Diyarbakır accueille 3 jours de commémoration du centenaire du génocide. Le célèbre pianiste Rafi Bedrosyan donnera notamment un concert de musique arménienne ce soir dans la belle église Sourbe-Giragos, témoin du passé douloureux et peut-être d'une foi nouvelle en l'avenir des Arméniens d'Anatolie.
Autre massacre s'est déroulé en Turquie peu après, en 1919, celui des Grecs pontiques. Aujourd'hui, l'Arménie est l'un des rares pays qui reconnaît ces atrocités comme génocide. Installés le long de la mer Noire, dans la région du Pont, ils sont aujourd'hui dispersés en Grèce, en Russie et dans les États du Caucase. Moins connus, ils réclament eux aussi la reconnaissance de leur génocide. Charlotte Stievenard nous appelle d'Athènes.
Arméniens et Grecs pontiques viennent de la même région, celle du Pont au sud-est de la mer Noire. La population hellénophone s'y est installée entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ et ils en ont hérité leur nom. Leur émigration a commencé il y a presque 600 ans par peur de la répression alors que les Turcs ottomans ont conquis la capitale Trébizonde. Les conflits entre cet empire et le grand voisin russe ont ensuite accentué le mouvement. Ça explique par exemple la présence des Grecs pontiques sur tout le pourtour de la mer Noire, à Mariupol en Ukraine, mais aussi en Russie et dans d'autres pays du Caucase. En 1918, l'Empire ottoman est démantelé dans les Balkans. Galvanisés, les Grecs pontiques restés dans la région du Pont revendiquent alors la création d'une république autonome, eux aussi. 2 ans plus tard, certains proposent même une confédération gréco-arménienne. S'en suivent plusieurs années de répression. Entre ceux qui ont été emprisonnés et ceux qui sont morts de faim ou épuisés sur les routes pendant leur déportation, les associations dénoncent 350 000 morts, soit presque les 3/4 de la population. En 1923, la Grèce et la Turquie échangent leurs minorités nationales respectives. C'est comme ça que beaucoup de Grecs pontiques se retrouvent en Grèce. Aujourd'hui, on peut encore reconnaître ces Grecs de la mer Noire qui parlent leur langue différente du grec moderne. La plupart sont chrétiens orthodoxes, mais certains s'étaient convertis à l'islam et on note encore leur présence dans la région du Pont. Et depuis les années 70, ils ont développé une conscience identitaire avec le développement d'associations culturelles à l'étranger. Aujourd'hui, l'Arménie fait partie des rares pays à reconnaître ces massacres comme génocide, un thème qui revient régulièrement dans les discours nationalistes en Grèce.
Et du centenaire du génocide arménien, nous en parlerons très largement demain dans Accent, émission spéciale avec les excellents reportages de Daphné Gastaldi et de Régis Janté. Direction la Suisse et ses relations contrariées avec le reste de l'Europe. Depuis la votation l'an dernier du plafonnement de l'immigration, nombre de partenariats ont été interrompus. La semaine dernière, les dirigeants de Berne ont pu en discuter avec le président français et essayer de le convaincre d'influencer l'Union pour une reprise de certains accords, notamment dans le secteur de la recherche. Reportage à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui héberge la fine fleur mondiale de la science et qui fait déjà les frais de cette votation. Virginie Langeroc.
Au bord du lac Léman, le campus de l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, impressionne par sa taille équivalente à l'aéroport de Genève. Les étudiants et les chercheurs, qui totalisent 125 nationalités et partagent l'anglais et le français comme langue commune, se croisent à vélo ou à trottinette. Un fleuron de la connaissance que dirige depuis 15 ans Patrick Ebischer, ce médecin en neurosciences, a développé l'EPFL en y implantant des centaines de start-up innovantes et l'a élevé au niveau des meilleures universités technologiques mondiales. Mais il y a un an, coup de tonnerre, lorsque l'Europe, au lendemain du référendum de la Suisse sur l'immigration, décide d'exclure le pays de ses programmes de recherche.
Cette votation du 9 février remettait quelque part en cause l'existence même des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne.
Michael Thémant, adjoint à la vice-présidence pour l'innovation.
Et comme à ce moment-là, la Suisse et l'Europe étaient en train de finaliser justement les discussions concernant la participation de la Suisse au programme de recherche et d'enseignement européen, de manière, je dirais, cohérente, l'Europe a décidé, vu que là, il y a une votation qui vient de passer et qui est quelque part incompatible avec les accords bilatéraux, pour l'instant, on gèle les négociations qui étaient à bout touchant concernant la participation de la Suisse au programme de recherche.
Conséquence concrète, certains partenaires européens ne veulent plus travailler avec le PFL par crainte de ne plus obtenir de financement. L'Europe a fini par accepter que la Suisse retrouve sa place sur certains programmes de recherche, mais seulement jusqu'en 2016, et elle reste encore exclue des fameux ERC, ces fonds de recherche européens très prestigieux. Patrick Abichère, directeur de l'EPFL.
C'est très problématique, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, ces ERC, c'est peut-être les projets de recherche les plus prestigieux que l'Europe a mis sur pied. Tout le monde cherche à en avoir. Lorsque vous regardez les institutions qui ont le plus d'ERC, c'est Oxford, c'est Cambridge, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Zurich et de Lausanne. Nous, c'est près de 100 différents crédits de recherche qui représentent simplement chacun d'entre eux en moyenne à peu près 2 millions d'euros.
À l'École Polytechnique de Lausanne, un professeur assistant sur deux, en début de carrière donc, possède une bourse ERC. Alors est-ce seulement l'argent qui fait défaut ? Pas vraiment, car la Suisse a annoncé très vite qu'elle compenserait le manque à gagner des chercheurs. Le gouvernement leur versera l'équivalent. Mais perdre ces financements européens, c'est surtout perdre du prestige et de l'attractivité.
C'est comme si on disait à Federer qu'il pouvait simplement jouer Eckstein. L'Open Suisse, c'est pas Wimbledon ou Roland Garros. À ce moment-là, vous perdez justement cette attractivité. Et la force de la Suisse, c'était justement d'attirer les meilleurs chercheurs du monde, où qu'ils soient, puisqu'à l'EPFL, 70% de nos chercheurs sont étrangers.
Prise entre ces deux positions, appliquer les accords conclus avec l'Europe et respecter le vote populaire limitant les migrations, la Suisse a jusqu'en 2017 pour mettre en œuvre la votation. Le sujet divise et personne ne sait vraiment comment le gouvernement va concilier ces deux impératifs.
Lorsqu'on demande au fond de ne pas respecter la libre circulation, on demande au fond de changer des fondements de la construction européenne. Au fond, la recherche a été le premier domaine à être touché, mais il y en aura bien d'autres si on devait être exclu du système.
Car c'est bien grâce à tous ces étrangers, chercheurs, cadres et travailleurs qualifiés, que la Suisse, forte de seulement 8 millions d'habitants, fonde la qualité de sa recherche scientifique, ainsi qu'une bonne part de sa prospérité économique.
Et c'est Marilyn Darcy qui nous emmène en visite aujourd'hui dans le beau métro de Lisbonne, un métro qui fait la part belle aux œuvres d'art. Alors pourquoi pas ne pas en faire profiter les visiteurs et associer des stations à des musées un peu oubliés de la capitale portugaise. 8 musées, 8 stations, des visites guidées pour voyager dans l'art et la science. L'initiative se prolonge jusqu'en août prochain.
La sobriété de la station de métro Rateau semble n'exister que pour mettre en valeur les deux grands panneaux de céramique qui ornent chaque extrémité. L'un, dénommé extension de la ville, est l'œuvre de Maria Helena Vieira da Silva. L'autre, banquier, est de son mari, Arpad Zenz. Élève de Fernand Léger et de Dufresne, l'artiste est l'une des plus remarquables représentantes du courant artistique dénommé Nouvelle École de Paris. Née à Lisbonne, la peintre est morte dans la capitale française en 1992. En épousant Arpad, juif et hongrois, elle avait en fait épousé le statut d'apatride qui sera leur sort pendant la Seconde Guerre mondiale. Une vie mouvementée et mal connue. Car qui parmi les usagers de la station métro du Rateau est capable de faire le lien entre le magnifique panneau d'Azulejos, inspiré de la peinture de Maria Helena, et le musée Fondation, consacré aux deux artistes? Il figure dans la liste de l'initiative 8 musées, 8 stations, dont l'objectif est de faire redécouvrir quelques lieux importants de la culture portugaise. Le métro de Lisbonne, 4 lignes, 55 stations, est considéré comme l'un des plus sûrs et les plus beaux au monde. L'art y joue un rôle prépondérant. La station Parc, sous le signe de l'humanisme, est associée au musée San Roque. La station Marquis de Pombal, du nom du reconstructeur de Lisbonne, homme des Lumières, est associée au musée de la pharmacie. On peut citer encore le musée d'archéologie dans les ruines du couvent du Carmo, peu fréquenté malgré ses richesses, et qui est associé à la station Martimonige, héros de la légende de la reconquête de Lisbonne aux mains des morts. L'initiative 8 stations de métro, 8 musées permettra de découvrir d'autres enchantements de Lisbonne, et tout cela pour le prix d'un ticket de métro.
Accent, c'est fini. Jusqu'à demain, à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous tout de suite sur Facebook et sur RFI.fr. Ne zappez pas dans un instant les infos sur RFI.